Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme l'a rappelé James, il y a environ un mois, nous avions commencé à étudier ce sujet de la création de Dieu. C'était en lien avec la COP21. Hier, je m'empresse de réparer une erreur que j'avais donnée, que Micheline a bien voulu avec le courage de me dire. La COP21, je vous avais dit que c'était parce que c'était celle du 21e siècle. En fait, c'était pas vrai du tout. Mais je le savais pas. C'était parce que la première conférence concernant le climat avait eu lieu il y a 21 ans. Et donc c'était 21 ans après, on refaisait une conférence, voilà, qui, je dirais, grâce à Dieu, n'a pas été vaine. Elle n'a peut-être pas donné tous les résultats attendus par les plus optimistes, mais elle a montré qu'il y avait quand même une prise de conscience des nations du monde du vrai problème de la destruction de l'équilibre créationnel, enfin, que nous appelons l'équilibre créationnel, et que le réchauffement climatique était effectivement quelque chose à combattre. Donc on peut être reconnaissant, beaucoup de chrétiens ont prié, et reconnaissant que Dieu ait conduit les autorités à avoir une position largement positive pour écouter ce cri d'alarme. Voilà. Alors je vous propose qu'on termine aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre pour un premier dimanche de l'année de prendre un sujet d'enseignement. On aurait peut-être pu prendre un sujet d'encouragement, de témoignage où Dieu intervient dans les histoires d'hommes et de femmes de la Bible, etc. Mais pour moi, la doctrine ou l'enseignement, c'est aussi encourageant. Enfin, j'espère que ça l'est pour vous. Ça n'a rien de barbant, parce que ça nous fait découvrir Dieu, et nous faisant découvrir Dieu, ça nourrit notre vie, la vie du Christ en nous. Et quand la vie du Christ en nous est nourrie et vivifiée, eh bien forcément ça augmente l'intimité de notre vie avec le Christ et ça nous réjouit. Et je vous propose donc de prendre cet enseignement comme ça, comme un cadeau de Dieu, que Dieu va nous faire comprendre davantage, comme il me l'a fait pour moi, en reprenant cette deuxième partie, nous faire comprendre davantage qui il est et quelle attitude il a eue. Et je remercie aussi James de nous avoir conduit aussi dans la louange déjà là-dessus. Alors c'est d'autant plus vrai que, en fait, on va traiter à travers ce sujet de trois grands piliers de la doctrine chrétienne, de l'enseignement chrétien. Le premier, on va montrer que tout existe pour la gloire de Dieu. Le deuxième pilier, c'est que le péché a tout infecté. Et le troisième, qui n'est pas le moindre, c'est que Dieu propose une espérance pour tout. Donc ça, c'est vraiment trois piliers, il y en a d'autres, mais cela font partie vraiment des piliers principaux. Mais alors, à la différence d'habitude, on parle souvent justement que toute église existe pour la gloire de Dieu, que l'homme doit glorifier Dieu. On dit combien le péché a infecté l'homme, et puis que Dieu propose une espérance pour l'homme, ce qui est vrai. Mais justement, je voudrais nous décentrer un petit peu aujourd'hui, parce que Dieu parle d'autre chose que de l'homme dans la Bible. Bien sûr, on s'y intéresse particulièrement, et surtout dans notre époque, dans notre société postmoderne, où chacun s'intéresse à sa propre vie, à être heureux dans sa propre vie, on est très tourné sur l'homme, et donc une vision assez anthropocentrique. Bien évidemment, Dieu a une vision, je dirais pas anthropocentrique, mais très importante pour l'homme, mais Dieu a créé autre chose que l'homme, et Dieu a aussi un projet pour l'ensemble de sa création. Et donc, je vous propose de découvrir aujourd'hui que justement, eh bien, Dieu a une espérance pour plus que l'homme. Pour l'homme, mais aussi pour tout ce qu'il a créé. Et donc, c'est un projet qui est global et qui est cohérent dans toute sa globalité. Et moi, c'est une des raisons pour laquelle j'adore Dieu, pour laquelle j'aime Dieu, parce que j'aime les choses qui sont cohérentes, et Dieu a fait un projet complètement cohérent, où il n'y a pas juste moi dedans. Des fois, on s'imagine que Dieu a juste pensé à moi. Il a pensé à tous les hommes, c'est déjà ça, et il a pensé aussi à tout ce qui nous entoure. Je vous propose donc de lire deux textes bibliques, puisque nous voulons baser l'ensemble de ce que nous disons sur ce que dit la Bible. Et je vous propose de lire ces deux textes, le premier dans Hébreux, deux grands textes, le début de l'Épître aux Hébreux, au verset 2 du chapitre 1, « Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, et ce Fils, il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. » Le Fils est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Et après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et le deuxième texte dans Colossiens 1, que Jonathan nous a partagé l'autre jour, et vous pourrez d'ailleurs mettre un bout de papier ou garder un doigt dans ce passage, on y reviendra. Colossiens 1, verset 15. Le Fils, toujours le même, il est l'image du Dieu invisible. Il rend visible, comme une image, le Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Nous y reviendrons. Donc, aujourd'hui, cette deuxième partie est... Je rappelle certains éléments de la première partie que nous avions vue il y a un mois. Nous avions vu d'abord que la terre appartient à Dieu, c'est sa propriété, et que Dieu avait trouvé sa création très bonne dès l'origine, et qu'il y a insisté beaucoup pendant l'époque de la création de la terre, et de la création d'ensemble de ce qu'il a créé. Il n'a pas créé que la terre. Il avait eu un avis très positif sur ce qu'il avait fait. Nous avions vu aussi que la création portait un témoignage à son Créateur et qu'elle était là pour montrer la grandeur de Dieu. Mais aussi, contrairement à ce que peuvent encore et ont pu penser plein de peuples, c'est que la création était une chose à adorer, une déesse avec une dimension de divinité. Nous, autant nous considérons la création comme sacrée parce que c'est Dieu qui l'a fait, autant nous ne la considérons pas comme une divinité. C'est Dieu qui est le seul Dieu. Et nous adorons Dieu à cause de sa création. Mais nous n'adorons pas la création. Même si nous sommes en émerveillement devant elle, nous sommes, et comme nous l'avons chanté et prié ce matin, nous sommes en émerveillement devant elle pour donner la gloire à celui qui l'a créée. Et puis en deuxième partie, on avait vu que autant la terre appartient à Dieu, c'est le propriétaire, autant il nous l'a donnée en location pour prendre soin de sa création. Nous sommes en quelque sorte locataires et aussi responsables donc de prendre soin de la création dans laquelle il nous a mises. Et dans ce sens-là, nous devons la servir en deux mots et non pas la servir. Nous devons en prendre soin comme Dieu prend soin de ceux sur qui il domine, c'est-à-dire sur nous, et qui est là pour nous aimer et pour nous servir. On avait parlé de ce modèle d'autorité qu'a Dieu, qui n'est pas une autorité qui écrase, mais une autorité qui sert. Et que nous devons le faire donc pour le compte du Créateur. Donc à la fois un émerveillement devant la beauté de la création, comme sujet de louange à Dieu, et à la fois une mission d'en prendre soin, avec tout ce que ça implique, surtout à notre époque, et on va y revenir. Voilà ce que nous avions vu la dernière fois, et je vous propose de continuer en montrant, dans première partie, que toute la création, existe pour glorifier Dieu. Et c'est ce que nous avons vu dans Colossiens 1. Tout a été créé par lui, ça on l'accepte volontiers, mais tout a été créé pour lui, pour la gloire du Créateur. Tout a été créé pour lui. Et dans cette dimension de création qu'a Dieu, il en a donné aussi une partie à l'homme. Et je pense que tout ce qui est créativité dans l'homme, que Dieu, tous les dons de créativité que Dieu donne aux hommes, eh bien c'est une manière de montrer aussi la création de Dieu. La vie pousse à la création. L'esprit de vie est un esprit créatif. Et que dans toutes ces inventions, et l'homme n'a pas à avoir peur, le chrétien n'a pas à avoir peur des inventions de l'homme. Si Dieu permet aux hommes d'inventer des choses, c'est merveilleux, ça contribue à la diversité de ce qui existe sur terre. Nous n'avons pas à avoir peur aussi de toutes les émotions, par exemple, que le chant apporte, que l'art apporte. Les arts sont le fait que l'homme puisse être, certains hommes puissent être des artistes dans la peinture, dans le chant, dans la poésie, dans tout un tas de domaines, dans l'architecture aussi. Tout ça, c'est des dons que Dieu a donnés à l'homme pour montrer que lui est le Dieu créateur. Et cette capacité de création doit toujours avoir pour nous un impact positif. Il serait dommage que des chrétiens disent « Non, l'art est humain. » Non, l'art est un don de Dieu qui peut être parfois mal utilisé, mais qui peut être aussi bien utilisé. Et on peut découvrir par l'art tout un tas des facettes de l'Évangile. D'ailleurs, il y a des artistes chrétiens qui transmettent à travers leur art l'Évangile de Jésus-Christ. Quand on voit la diversité du monde animal, je regardais hier un reportage sur la manière dont les requins naissent, un requin de 3 ou 4 mètres de long, qui dépose un énorme œuf dans la mer, qui est absolument inattaquable, et le requin se développe jusqu'à avoir 20 cm, complètement dans cette bulle, et à un moment donné, il sort complètement formé. Je trouvais ça merveilleux. Et un autre requin, pourtant de la même famille, qui fait 20 mètres de long, le requin baleine, lui, il avait 12 petits requins dans son ventre. Donc un mode de reproduction très différent que Dieu a choisi pour les requins, mais qui, moi, ça m'émerveille toujours de voir cette diversité et que Dieu a tout prévu pour que tout se passe pour eux. Dieu est un Dieu créatif, il a voulu l'homme créatif et nous devons nous émerveiller de ce qu'il a fait pour l'homme. Mais nous voyons aussi que la création qui nous entoure loue le Seigneur. Toute cette création diverse, la parole nous dit, même si nous on ne peut pas trop le concevoir, nous devons le lire, comme dans ce psaume 96, « L'Éternel juge les peuples avec droiture, que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la campagne exulte, que tous les arbres des forêts lancent des acclamations. » Moi, je ne sais pas comment les arbres lancent des acclamations au Dieu vivant. Mais je lis dans la Bible qu'il lance des acclamations au Dieu vivant et que la campagne l'exulte. Donc je le crois. Dieu a un moyen de se laisser adorer par toute sa créature Et ce texte est magnifique. Mais remarquez que celui d'Apocalypse, Apocalypse 5, qu'on lit très couramment, sans trop, en pensant simplement à l'ambiance d'adoration, mais quand on lit ça de manière détaillée, c'est étonnant de voir ça. Apocalypse 5, verset 13, il est dit « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Toutes les créatures louent Dieu. C'est pas merveilleux ça? Et ça nous décentre aussi de notre petite, justement, petite bulle des hommes. Toutes les créatures, celles qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, louent le Seigneur. Parce que le Seigneur est le Seigneur de tout et le Créateur de tout. Voilà les choses sur lesquelles je pense qu'il faut, il fait bien de penser plusieurs, enfin, de se rappeler ça, comme de beaucoup d'autres choses, régulièrement, en pensant que je suis entouré d'une création qui elle-même loue le Seigneur. Je suis donc dans un ensemble cohérent que Dieu a créé et dans lequel il m'a donné la charge de prendre soin de la création qui elle-même loue le Seigneur. Puisqu'il faut bien parler aussi des choses qui sont moins bien, posons-nous maintenant la question de ce que dit la Bible sur la situation actuelle de la création. Je vais essayer, bien sûr, rapidement, de noter ça en trois points. Nous sommes dans une création contaminée par le péché du premier homme. Le péché, c'est le plus grand scandale de l'humanité, c'est le plus grand désastre de l'humanité, d'avoir apporté le mal dans ce que Dieu avait fait bien. Et dans Genèse 3, au verset 17 et 18, il nous est dit... Le sol, donc c'est Dieu qui s'adresse à Adam, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie, il te produira des chardons et des broussailles. On voit là une malédiction à cause du péché, à cause de l'acte qu'a posé Adam de désobéissance à Dieu, de ne pas croire que Dieu l'aimait tellement que s'il lui avait posé des limites, c'était pour son bien. Eh bien, il y a eu cette malédiction sur l'ensemble de son travail, sur l'ensemble de la création, avec la notion de ronces, de broussailles, de chardons, de pénibilité. Et ça, c'est... Voilà, c'est aussi depuis ce temps-là qu'il y a la loi de la jungle dans la nature, où les petits animaux sont mangés par les grands, où il y a vraiment une grande violence dans la nature. Si on ne connaît pas bien la nature, on n'est pas très habitué à ça, et on ne supporte pas qu'un chat mange un oiseau, mais pourtant il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent dans la nature pour que chacun survive. Mais ce qui est aussi, j'allais dire, aussi grave parce que ça nous concerne, nous avons aussi affaire à une création endeuillée. Et le mot endeuillée, je l'utilise parce que la parole l'utilise. Endeuillée par les péchés des hommes. Par exemple, dans Jérémie 12, verset 4, donc c'est une parole d'un prophète qui parle au peuple d'Israël. Jérémie, comme prophète, dit « Mais jusqu'à quand le pays sera-t-il endeuillé ?» À cause de la méchanceté de ses habitants, les bêtes et les oiseaux disparaissent. Ils disent « L'homme ne verra pas notre fin. » Voyez, un événement dans la vie de Jérémie où tellement les hommes étaient méchants qu'ils ont apparemment tué les animaux, les oiseaux, et que, dans une expression un peu prophétique, ils ont dit « Mais les bêtes et les oiseaux, ils préfèrent s'en aller. Ils ne veulent pas que l'homme les voit mourir. » Et donc apparemment un désastre écologique, et qu'on voit que la création souffrait. Et de la parole d'un prophète qui parle de la part de Dieu, je trouve ça très pertinent, surtout pour notre époque. Mais on voit que ce n'est pas qu'à notre époque. Dans Osée aussi 4 au verset 3, il nous est dit, On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. Voyez donc la violence, le péché de l'homme dans le meurtre, dans la violence. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui habitent seront abattus, de même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Voyez donc, il y a un système qui se tient entre la création, l'homme et Dieu. Et que toucher à l'un touche aussi à l'autre. Que nous sommes faits pour vivre dans la création. Et que la création aussi a besoin de l'homme d'ailleurs. Et avec l'ère industrielle, notamment, on note tous les chiffres, tous les chercheurs qui ont travaillé sur le réchauffement climatique font démarrer le début des problèmes et le début du réchauffement à l'ère industrielle. Ils constatent, d'après tout ce qu'ils peuvent avoir comme données, l'ère industrielle a commencé à dérégler le fonctionnement de la nature. Et puis avec maintenant la société de consommation, de la croissance à tout prix, on a imaginé en fait que les ressources de la Terre étaient inépuisables. Or la Terre est finie. Et donc nous avons détraqué par l'émission des gaz qui réchauffent la planète, les gaz à effet de serre, nous avons détraqué le fonctionnement. Et il est inévitable, selon tous les chercheurs, que la température moyenne augmente de 2 degrés. Ce qui fait que les contrées, surtout les pays où il y a plein d'îles, comme la Polynésie, comme les Philippines, etc., sont tout à fait en risque très fort, et le vivent d'ailleurs déjà, en risque d'être inondées pour tout ce qui est près de la côte. Et le problème qui se double, parce qu'il y a le problème écologique et il y a un problème de justice, c'est qu'en général, tous les pays les plus bas sont les plus pauvres. Et donc, globalement, le désastre climatique touche aussi les plus pauvres. Or, le Seigneur, et on l'avait déjà dit, s'intéresse d'abord aux pauvres et a un regard particulier sur les pauvres. D'où une double exigence pour le chrétien de ne pas être indifférent à ce qui se passe dans notre monde au niveau de la justice climatique, puisque ça va toucher la création de Dieu et ça va toucher ceux qui sont les plus pauvres. Et actuellement, 97% des chercheurs sont absolument certains et affirment que la cause du réchauffement climatique est due à l'activité humaine. On l'a longtemps remis en cause, et surtout les grands groupes industriels, etc. Et ceux aussi qui voudraient ne jamais changer leur mode de vie et vivre toujours comme ils ont toujours vécu, en utilisant beaucoup d'énergie. Je pense que si 97% des chercheurs, toutes religions confondues, tout domaine de recherche confondu, dit la raison du réchauffement climatique est due à l'homme, nous devons l'entendre et être les premiers à être sans reproche là-dessus. Mais la chose encore plus importante, c'est que cette création, à cause du péché, est sous l'esclavage. Là, j'aimerais vous proposer d'ouvrir vos Bibles en Romains 8. Toute l'épître aux Romains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, concerne la libération de l'homme prisonnier du péché. Avec un enseignement extrêmement important. Ensuite, on voit, 9, 10, 11, que Dieu s'intéresse à un pays. Et c'est intéressant aussi, Dieu ne s'intéresse pas qu'à un homme unique, chacun dans notre unicité, mais Dieu s'intéresse à des pays, et notamment au pays d'Israël. Mais entre les deux, de manière surprenante, Dieu tout d'un coup nous parle de la création, dans Romains 8. Et au verset 19... Vous voyez, de fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire. Elle souffre, et pas n'importe quelle souffrance, mesdames, elle souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle qui soupire seulement, mais nous aussi nous qui pourtant avons l'esprit, avons par l'esprit un avant-goût de cet avenir. Je ne vais pas approfondir ce texte, j'en aurais besoin de beaucoup plus de temps. Mais ce que nous voyons encore une fois là, c'est que nous sommes liés à la création et que la création est liée à nous. Et qu'on voit qu'en fait la création, elle a besoin d'une libération. C'est un peu comme si elle était, elle est esclave, affirmons-le, c'est marqué au verset 21. Elle doit être libérée d'un esclavage. Le péché l'a corrompue. C'est justement ce dont je vous parlais tout à l'heure, de cette loi de la jungle où le petit mange les végétaux, le gros mange les petits animaux, et ils se tuent entre eux, etc. Entre autres, il y a ça. Et puis, ils souffrent aussi de la méchanceté de l'homme, comme on l'a vu. Et ils ont besoin la création a besoin d'une libération. Et ce qui est intéressant et surprenant, c'est qu'on voit que sa libération est liée à la libération de l'homme. C'est pour ça qu'il est marqué au verset 21, « Elle sera libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. » La création un jour ne sera plus sous ce joug du péché, mais elle pourra, autant que nous, les enfants de Dieu, se réjouir d'être libres. Elle souffre actuellement et elle vivra la même libération que nous. Paul dit là, nous avons de la chance parce qu'avec l'Esprit que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit, nous vivons déjà un petit peu comme s'il nous avait donné un début d'héritage. Il nous fait goûter par le Saint-Esprit ce que peut être cette liberté. Mais plus tard, on aura la totale liberté et la création, elle, qui ne vit pas cet avant-goût de l'Esprit, eh bien, elle vivra, elle découvrira aussi cette liberté en Dieu, sans le péché. Je trouve très frappant que là aussi, Dieu relie la création à l'homme. Et qu'on voit que l'homme est quand même le premier objet de la libération de Dieu, puisque c'est grâce à la libération humaine que la création pourra être libérée et se réjouir dans la liberté avec nous. Donc la création, ce n'est pas rien, c'est quelque chose que Dieu, pour laquelle Dieu a tout un projet. Et justement, nous avons vu là que la situation actuelle de la création n'est pas très très facile. Et tout de même, nous pouvons continuer, comme James l'a cité tout à l'heure, de voir dans la création, et comme Josué l'a lu dans le début de Romains, de voir dans la création la capacité merveilleuse et immense de Dieu à faire des choses merveilleuses dont on ne peut que se poser la question, mais qui a fait cela et quel est celui qui a une si belle intention en faisant de si belles choses? Voilà. Cependant, Dieu ne veut pas laisser la création comme ça. Et venons-en au troisième point. Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Je pense que vous connaissez ce verset de Romains 15 qui nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix en croyant, pour que vous abondiez en espérance dans la puissance de l'Esprit-Saint. J'aime beaucoup ce verset. Que le Dieu de l'espérance, notre Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Et il le veut aussi pour sa création. De quelle espérance parlons-nous? Eh bien, j'ai pris deux textes. Dans l'Ancien Testament, écrit donc avant la venue du Christ, on voit que Dieu avait déjà une intention positive pour sa création. Dans Ésaïe 65 et Ésaïe 66, un grand prophète, Dieu dit par l'intermédiaire donc de ce prophète, « Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des événements du début, ils ne remonteront pas à la pensée. En effet, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi, oracle de l'Éternel, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. Deux choses. Dieu crée, affirme qu'il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quelque chose de nouveau. Donc, que Dieu aura la victoire sur le péché qui a atteint notre terre et atteint notre ciel. Et deuxième chose, cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux subsisteront. Et ça, il l'affirme deux fois. En effet, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront, aussi vous subsisterez, votre descendance et votre nom, oracle de l'Éternel. Donc pour dire, je mets un tampon là-dessus, c'est sûr. Nous subsisterons pour l'éternité, et la terre et la nouvelle terre et les nouveaux cieux subsisteront. C'est Dieu qui le dit. Ça fait partie de la doctrine chrétienne, ça fait partie de notre foi. Nous croyons dans ce Dieu qui a dit ça. Nous ne savons pas comment il va faire, nous ne savons pas comment il va le faire, mais la perspective pour Dieu, c'est des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Merci. Et dans la deuxième épître de Pierre, Pierre, donc, ce chrétien qui a beaucoup enseigné et propagé l'évangile de Jésus-Christ, il nous dit, il nous ouvre un peu quelques données là-dessus, et de Pierre 3, verset 6, il nous dit que tout comme la terre lors du déluge a été détruite, alors notre monde sera détruit et que Dieu va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc Pierre le redit. Et si on étudie bien ça, en tout cas moi ça m'a permis de m'enlever de la tête une pensée erronée. Cette pensée erronée, c'était que Dieu allait tout détruire, notre terre, comme si c'était tout mauvais, et tout mettre à la poubelle, c'est terminé. Et effectivement, lors d'un enseignement que j'ai écouté, j'ai pris conscience que non. Parce que cette idée que Dieu allait tout détruire m'a fait dire, ou m'a fait aussi être enseigné là-dedans, en disant, mais de toute façon, Dieu va tout détruire, donc pourquoi tu prendrais soin de la création ? Ben non, d'une part, à cause de ce que j'ai dit, c'est que la création, Dieu l'a faite belle, et il m'a mis là pour en prendre soin, et il nous a mis là pour en prendre soin. Mais deuxièmement, quand on réfléchit, quand il est dit que Dieu a détruit la terre par le déluge, est-ce que la terre a réellement été détruite par le déluge, c'est-à-dire mise à la poubelle? Non, elle a été simplement entourée d'eau, de fait que tous les animaux sont morts, sauf ceux qui étaient dans l'arche de Noé, mais ensuite la terre est restée et la vie a repris. Eh bien, c'est le même mot qui est utilisé quand Pierre dit « notre création d'aujourd'hui va être détruite ». C'est donc pas une destruction totale qui fait que la terre va devenir néant et que Dieu va prendre quelque chose de complètement neuf et qui n'a rien à voir avec cette terre, et il va créer quelque chose de complètement neuf. Non, Dieu va faire quelque chose de nouveau au sens où il l'entend toujours dans la Bible. Et récemment, j'ai entendu le théologien Henri Blocher justement expliquer ça en disant, mais c'est à comparer avec ce qu'il va faire de notre corps, qui est un corps fatigué, un corps pour certains, moins pour les jeunes, un corps en tout cas fragile pour tous, un corps qui est mortel. Et qu'est-ce que Dieu va en faire ? Il va le ressusciter. Et comme l'apôtre Paul prend cet exemple dans 1 Corinthiens 15, notre corps c'est un peu comme un grain de blé. Il va mourir et ensuite il va produire une plante qui est complètement différente du grain de blé. La plante est verte, le grain de blé est marron, le grain de blé est tout petit, la plante pousse au moins gros comme ça, et je ne vous dis pas pour les arbres. Donc c'est très différent, et pourtant la plante de blé vient du grain de blé. Et Dieu prend cet exemple dans la Bible pour nous montrer comment notre corps va ressusciter d'un corps naturel, il va devenir un corps spirituel, et pourtant un corps aussi. Et c'est cette forme de renouvellement de Dieu. Un corps pécheur, il va me faire un corps non pécheur. Eh bien, c'est un peu la même chose qu'il va faire avec la terre. C'est une nouvelle terre dans le sens où il va la purger du péché. Je ne sais pas comment il va faire. Elle sera certainement très différente de celle-ci, mais Dieu va utiliser cette terre-là et cette création-là pour la purger du péché et en faire un nouveau ciel, une nouvelle terre où le péché n'existe plus et où la nature est complètement libérée du péché et où nous autres aussi, on sera complètement libérés du péché dans une pleine communion avec notre Dieu. Dieu a donc tout un projet de renouvellement au sens de laver, de tout laver du péché, mais plus que laver. C'est une nature différente à partir de ce qu'il avait créé et ce qu'il avait créé de bon. Dieu, son grand projet, c'est de ne plus rien avoir à faire avec le péché. Un texte de la Bible dit que Jésus, le Seigneur, reviendra sans plus rien avoir à faire avec le péché. Il est venu sans péché sur la terre et il reviendra sans plus rien avoir à faire avec le péché parce qu'il a tout réglé à la croix. Et alors dans Apocalypse 21, donc l'avant-dernier chapitre de la Bible, il nous est dit « Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même qui est Dieu sera Dieu avec eux. » Non, pardon, lui-même, je n'arrive pas à lire. Lui-même Dieu avec eux sera leur Dieu. Qu'est-ce qui est marqué? Oui, ça va pas, donc il y a un petit truc. Enfin, vous me croyez que c'est dans Apocalypse 21, hein, vous pouvez vérifier. Donc, il y aura en fait à la fois continuité, parce que Dieu, comme il va le faire avec notre corps, va utiliser ce qu'il a fait de bon et le transformer pour en faire une terre nouvelle et un ciel nouveau. Et puis, il y aura aussi une grande discontinuité, parce que là, Dieu habitera sur la terre. Et discontinuité, c'est-à-dire une totale différence, puisqu'il n'y aura même plus besoin du soleil et de la lune, puisque l'agneau lui-même sera le flambeau et que Dieu sera son temple. Cette terre nouvelle n'aura plus besoin du soleil ou de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc ce sera bien complètement différent. Continuité et discontinuité. Et il était tout à fait intéressant de voir. Et je pense que nous devrions davantage aussi réfléchir à ça, ou nous réjouir de ça. On dit souvent, nous allons aller au ciel avec le Seigneur. Mais en fait, le mouvement final de la fin de la Bible, de la fin de la révélation de Dieu, ce n'est pas nous qui montons, c'est Dieu qui descend pour venir s'établir avec ceux qu'il aime, et ceux qui l'ont aimé, et qui l'aiment toujours d'ailleurs, sur la terre. Le mouvement final, c'est Dieu qui vient sur la terre. Mais sur la terre nouvelle, cette terre qui peut l'accueillir parce qu'il n'y a plus de péché. Et là, eh bien, plus besoin de lune, de soleil, la gloire de Dieu éclaire cette nouvelle création et l'agneau est son flambeau. Alors, dernière chose, comment ça peut se passer ça? Uniquement par ce moment central de l'éternité. Parfois on dit que l'éternité n'a pas de début, n'a pas de fin, mais qu'elle a un centre. Je pense que c'est biblique. C'est le jour où le Christ est mort sur la croix. Et nous allons terminer en lisant ces 5 versets de Colossiens, que nous on a déjà lu tout à l'heure, mais je vais aller un peu plus loin. Le Fils est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1, verset 15. Le premier-né de toute la création, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Il a tout réconcilié, l'homme effectivement, mais toutes les autres, toute sa création a été réconciliée. Ce qui est dans les cieux, ce qui est sous la terre, comme on l'a lu, sur la mer, sur la terre. Dieu, c'est la croix a un impact cosmique. Il n'a pas juste un impact pour moi. Dieu est le créateur de tout. Et la croix a un impact de libération sur l'ensemble de ce que Dieu a créé, soit le cosmos. Nous ne voyons qu'une petite partie, mais Dieu est le créateur de tout. Voilà ce que j'appelle la grande histoire de Dieu. Là, on ne voit pas un Dieu étriqué, juste attentionné à mes petits problèmes de la vie de maintenant. On voit un Dieu qui est le maître de tout et qui aura aussi la capacité de tout purifier, de tout libérer, pour que nous nous réjouissions tous ensemble avec l'ensemble de tout ce qu'il a créé, de ce grand Dieu qui sera pour l'éternité la source de notre joie. La gloire de la terre et l'agneau, donc le Christ, en sera le soleil. Alors, sur la base de ce que nous avons découvert, je dirais que ici et maintenant, nous pouvons, et je vous invite à vous réjouir en observant la beauté de la création, et à vous réjouir et à adorer le Seigneur. Je vous invite aussi à vous acquitter de la mission que le Seigneur nous a donnée de prendre soin de la création. Je vous invite à vous réjouir encore et peut-être aussi vous apaiser. On a parlé tout à l'heure dans une prière des crises, etc. Et effectivement, nous avons de quoi aussi avoir quelques soucis pour notre monde. Nous pouvons nous apaiser et encore plus nous réjouir à cause de l'espérance que notre Dieu a affirmé et contresigné. Je vais créer une nouvelle terre, des nouveaux cieux qui subsisteront. Oracle de l'Éternel. Et puis je vous invite aussi à communiquer cette espérance, à communiquer cette paix. Certains de nos concitoyens pourraient nous demander peut-être un jour la raison de l'espérance qui est en nous. Et plus nous avons cette espérance chevillée au corps, plus nos concitoyens nous diront « Mais toi, qu'est-ce qui fait que tu es paisible au milieu d'une situation difficile ?» Eh bien, c'est moi j'ai un Dieu qui a signé comme quoi il avait une espérance et qu'il le ferait et que pour l'instant, il serait toujours avec moi et qu'il peut aussi faire ça dans ton cœur. Donc nous pouvons aussi, à travers cette vision de l'espérance de Dieu pour l'ensemble de sa création, dont moi, communiquer l'évangile à ceux qui seront interrogés par notre paix au milieu de ce qui se passe, parce que notre Dieu sera toujours le Dieu de l'espérance. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je propose de prier. Merci notre Dieu. Pas tellement merci, mais nous t'adorons, notre Dieu. Devant l'immensité de ta créativité et de toutes ces belles choses que tu as faites, dont nous, et devant aussi cette volonté farouche que tu as depuis que le péché est sur cette terre, d'en finir avec le péché. Tu nous as déjà en partie délivrés du péché. Je dis en fait totalement délivré du péché, mais tu nous en fais goûter quelque chose au milieu d'une fragilité. Bientôt, ce sera terminé et nous serons pour toujours avec toi. Mais quelle merveille aussi de découvrir que tu vas aussi libérer la création qui nous entoure, elle qui souffre actuellement, et tu vas la libérer par notre libération. Seigneur, devant ce que tu as fait à la croix, devant l'impact beaucoup plus que juste pour nous, mais un impact cosmique de ce que tu as fait à la croix. Ça a été vraiment le lieu de la réconciliation totale. Seigneur Jésus, alors que tu souffres sur cette croix, alors que ton Dieu t'a abandonné parce que tu portes notre péché, parce que tu portes tout le péché qui a sali cette création, en te voyant mourir sur la croix, en nous imaginant, revenant en arrière, tout ce que ça a été pour toi. Seigneur, nous voulons aussi t'adorer. Et comprendre aussi la joie que tu avais, puisque tu as accepté la croix à cause de la joie que tu voyais au-delà quand tu serais assis avec ton Dieu, dans cette perspective que tu penses et que tu vois comme imminente d'une totale libération de tout. Nous voulons te rendre grâce, notre Dieu. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Et nous voulons nous réjouir dans l'espérance. Amen.